France Culture. France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourbon.
Mortelle ou mortifère, contagieuse, ardente, cruelle, dangereuse, ignée, violente, infecte, ennemie du genre humain, fiévreuse, plombée, surprenante, compagne de la mort, automnale, enflambée, ravissante, ennemie, triste, misérable, vilaine, menaçante, traîtresse, soudaine, odieuse, meurtrière, terrible, maligne, sanglante, outrageuse, dommageable, stygienne, rigoureuse, aspre, noire, charbonneuse, mauvaise, épouvantable, commune, méchante, impitoyable, homicide, malheureuse, détestable, létéane, enragée, malbosse, inexorable, voici les épithètes de la peste telles que rassemblées en 1571 par un certain Maurice Delaporte qui se présente comme parisien, fils d'imprimeur, nous indique l'historien Patrick Boucheron. C'est l'une des très nombreuses personnes qui traversent le fort volume qu'il fait paraître ces jours-ci sous le titre « Peste noire », la peste comme test pour l'historien. Il est cette semaine l'invité de la suite dans les idées. Il sera rejoint en deuxième partie par le chorégraphe Boris Charmatz qui, lors d'une épidémie que nous avons tous traversée, celle de Covid-19 bien entendu, a créé malgré tout des spectacles. Il a travaillé aussi sur un autre projet avec Patrick Boucheron, nous aurons l'occasion d'en reparler. Bonjour Patrick Boucheron.
Bonjour Sylvain Bourmeau.
Historien, professeur au Collège de France, producteur à France Culture d'Allons-y voir cette émission qui est diffusé le dimanche à 14h. Vous publiez donc aux éditions du Seuil un fort volume, disais-je en introduction, titré tout simplement « Peste noire ». C'est un livre pluraliste au fond, un livre qui multiplie les points de vue, qui ne se fait jamais le ventriloque de ceux dont il parle, et qui d'ailleurs nous prévient au seuil d'un prologue que le narrateur nous quitte, nous laisse tout seul. Comment est apparu ce dispositif, Patrick Boucheron ?
Parce qu'il m'a semblé que la place d'un historien n'est pas toujours dans son livre, qu'on peut, à un certain moment, par retenue, par, au fond, dignité face à la souffrance des autres, et j'ai beaucoup lu Suzanne Sontag, se dire, ben voilà, je me retire un peu. C'est pas tout à fait vrai, mais pourquoi ça peut l'être? Parce que, pour les raisons que vous venez de dire, c'est-à-dire que la peste, c'est d'abord une inflammation du langage. Ça produit du discours interminablement. Et l'épithétaire du XVIe siècle, dont vous avez lu un extrait, ce sont ces mots qu'on jette au visage du mal, parce que pestis, pour nous, ça veut dire quelque chose de concret, de précis, de scientifique. C'est cette maladie infectieuse dont le bacille est découvert par Alexandre Yersin en 1894 à Hong Kong. Mais pour eux, pour celles et ceux qui meurent et qui n'ont aucune idée de ce qui les fait souffrir et qui meurent en masse, hein, 60% de la population européenne, pestis est un mot ancien qui ne veut dire rien d'autre que ce mal si terrifiant qu'on ne peut rien en dire. Et donc à partir de ce moment-là, oui, il ne peut être que pluraliste ce livre parce que, bah d'abord on va peut-être en parler parce que c'est l'histoire du tout monde, hein, c'est l'histoire monde d'un événement de longue durée où nous sommes pas forcément les personnages principaux, c'est d'abord une maladie des rongeurs, la peste, donc ce sont tous les vivants que ça affecte, mais elle ne peut être que pluraliste.
Une maladie de la salive de la puce du rat,
oui.
Si on veut être précis,
oui.
C'est ça.
Oui, oui, c'est vraiment, pour nous, c'est une terrible blessure narcissique. Hein. Et d'ailleurs, il faut vraiment que le dernier rat meure pour que la puce daigne sauter sur cette hôte de remplacement, parce qu'on n'est pas du tout son goût. La peste n'est pas notre genre, à nous, le genre humain. Elle est d'ailleurs si mal adaptée à l'humanité qu'on en meurt. Parce que si on se met une minute à la place de l'agent pathogène, il n'y a aucun intérêt à tuer tout le monde. Il vaut mieux, la happy end d'une épidémie, c'est l'endémie, hein, c'est la grippe. Tout le monde, au fond, là, plus ou moins, certains en meurent, mais peu. Et donc, ça permet de muter tranquillement. Donc, au fond, ce récit, ouais, je crois, vous avez raison, Sylvain Bourmeau, je crois que c'est un récit en quête de son narrateur.
Alors, des historiens, beaucoup d'historiens se sont attaqués à la peste et comment ne l'auraient-ils fait dans la mesure où vous le rappeliez, 60% de la population européenne meurt dans ces années.
Et peut-être même plus. On ne cesse, au fond, de réévaluer le bilan démographique. Là, on parle du moment paroxystique de la seconde pandémie, 1347-1353.
Compter les morts, c'est l'un des enjeux, d'ailleurs. Mais en tous les cas, c'est, vous en parlez comme de la plus importante, probablement, catastrophe démographique qui ait jamais connue l'humanité. Donc, c'est un événement historique, comme il en existe peu, qui fait l'objet de discours historiques depuis très longtemps. Et en même temps, comme vous prévient, je crois, Guillaume Lachenal, oui. C'est une histoire pas très amusante à raconter, parce que en fait, elle est toujours structurée de la même manière, et on connaît la fin par avance.
Et c'est d'autant plus déprimant d'ailleurs que la matrice littéraire du récit épidémique de la peste, c'est la peste des Athéniens, donc décrite par Thucydide en 430 avant notre ère, qui n'est pas une peste, mais qui le devient à force d'être répétée par Lucrèce, de Faux et les autres. Donc au fond, ce que produit cet événement monstre, qui est paradoxal, et comme vous le dites, effectivement, moi, j'avais une sorte d'insatisfaction à enseigner, d'abord, comme prof, la peste noire, c'est que je l'enseignais jamais vraiment comme événement. C'était une conjoncture, c'était un moment, c'était une période, on était au temps de la peste noire. Mais qu'est-ce que ça fait, une catastrophe aussi sidérante? Est-ce que ça plie le temps? Est-ce que cela le coupe aussi nettement que, comme on avait pu penser, qu'au temps du Covid, il y aurait un monde d'avant, d'un monde d'après? En fait, non, ça le replie. Ça le replie au milieu, comme on a vécu. Le temps épidémique, c'est ça, c'est une confusion des temporalités, et c'est ce que j'appelle le temps des faits. Et donc, ça veut dire que c'est encore plus intéressant. C'est difficile, on ne sait pas trop comment le raconter, à quelle hauteur, les étoiles, la puce. Moi, j'ai choisi une hauteur moyenne, celle des endeuillés, celle des survivants, parce que l'histoire, c'est la science du malheur des hommes, comme disait Raymond Queneau. Donc, il y a quelque chose, évidemment, de littéraire dans ce récit qui cherche son narrateur, mais il ne peut être que littéraire parce qu'il est intraitablement scientifique. Voilà. Ça, on va en parler, c'est des sciences sociales. Et parce que cette épreuve d'interdisciplinarité, parce qu'il va falloir tout y mettre, de la génétique, des sciences de l'environnement, etc., c'est aussi une épreuve de narrativité. Comment on raconte cette histoire ?
C'est pour ça que je parlais de test à propos de la peste, oui. De crash test, au fond, d'événements tellement massifs, tellement importants, qu'il faut mobiliser absolument toutes les connaissances, ce à quoi vous employez, parce que vous dites, vous l'abordez, c'est vrai, à travers les endeuillés, mais ça ne vous empêche pas, en fait, de regarder en bas, en haut, à droite, à gauche, partout, et à toutes les époques, et en ayant recours le plus possible à des disciplines extraordinairement différentes. Une actualité scientifique vient de tomber ces jours-ci, encore une fois, à propos de la peste, Patrick Boucheron.
Oui, alors ça m'a obligé d'ailleurs à rajouter in extremis, les éditrices n'étaient pas ravies, mais c'était nécessaire, je crois, entre les premières et les deuxièmes épreuves, un paragraphe précisément sur les arrière-pays de la peste. C'est-à-dire qu'on comprend mieux comment, au fond, avant la peste telle qu'elle apparaît, au fond, dans les projecteurs de l'histoire européenne, c'est-à-dire avec à Marseille, la peste arrive à Marseille en novembre-décembre 1347, et Marseille est le hub de l'Europe occidentale, et les mondes de la peste vont s'interconnecter à partir de ce moment-là, et ça, c'est le début du grand récit. Alors, on peut aller un petit peu avant, dire il y a eu une guerre bactériologique, une guerre sale, le siège de Caffa, et puis, au fond, ce qui permet à la fois de reculer dans le temps et dans l'espace, c'est la génétique. Parce que là, depuis quelques années, et encore tout récemment avec un article qui a un mois et demi, on va chercher dans les restes osseux de cimetières, de quoi séquencer génétiquement l'agent pathogène. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire qu'on va trouver dans des cimetières qu'on date par ailleurs, des traces génétiques de Yersinia pestis, parce que les microbes, ça laisse pas de fossiles. Donc, il y a que les archives du vivant, au fond, qui emportent la trace. Et à partir de ce moment-là, c'est vertigineux. Parce que il y a ça, mais il y a aussi notre propre génome humain. Et on peut dire les choses simplement. Vous dites, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. La troisième pandémie est en cours. Il n'y a aucune épidémie qui se termine. Et pour une raison simple, c'est que elle est tapie là. C'est la fin d'Albert Camus, hein, c'est la fin de la peste. Il y a quelque part dans notre corps un lieu où elle est encore, où elle est tapie. Et c'est d'ailleurs si vrai que nous sommes les survivantes et les survivants de la peste noire, pour une raison simple, c'est que forcément nos ancêtres soit ne l'ont pas contracté, soit plus probablement l'ont eu et en ont guéri. Il y avait 60% de mortalité pour la peste bubonique, c'est énorme, mais ça veut dire quand même qu'il y a 30 à 40% des gens qui échappent, voilà, et qui échappent transformés, y compris génétiquement. Ouais. Aussi bien sûr intellectuellement et politiquement.
On va venir aux sciences sociales et à la dimension épistémologique forte de ce livre, parce que c'est un peu le lieu pour ça et la raison pour laquelle je vous ai invité, Patrick Boucheron. Mais avant ça, je vous entendais parler de Marseille comme hub. On croise aussi le professeur Raoul dans votre livre, parce que ce livre est aussi un livre d'un moment, celui de la Covid-19. Vous avez commencé ce travail à peu près au moment où démarrait cette épidémie, et cette pandémie, ou plutôt ces confinements, ont eu des conséquences très pratiques, très concrètes, sur la manière dont vous avez pu commencer à mener l'enquête.
Alors, on croise effectivement le professeur Didier Raoult avec Michel Drancourt au moment où il travaille sur la peste, dans les années 2000, où il fait des découvertes majeures, alors qu'il met un petit peu en scène avec ce sens de la nuance et de l'autoréflexivité qu'on a appris à aimer, hein, chez lui, depuis. Et c'est d'ailleurs assez intéressant, à ce moment-là, il dit, ok, c'est fini, c'est plié, cette histoire de la peste, j'ai découvert le bacille. Donc, en fait, la peste noire était bien la deuxième pandémie de Yersinia pestis et c'est réglé. Mais non, c'est pas réglé. Parce que tout bouge. Parce qu'effectivement, il y a une histoire des sociétés, mais il y a aussi une histoire des êtres vivants, le rat, comme nous. Bon. Et ça, on le comprend mieux aujourd'hui. Évidemment que c'est une histoire de la peste en temps de Covid. C'est comme ça que ça a été concrètement enseigné. Hein. C'est d'abord un cours au Collège de France. J'avais eu l'idée bien avant le Covid, je ne veux pas lui en faire reproche, mais bien avant le Covid, j'avais eu cette idée-là. J'étais presque gêné pour ces raisons un petit peu de tact dont je parlais. Je me disais, non, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas parler d'une épidémie autant d'une autre épidémie avec le petit côté, vous savez, un peu malicieux des historiens, du « je vous l'avais bien dit », ça, je déteste ça.
La mise en écho.
Mais ouais, ça m'a fait presque renoncer, puis je me dis, non, je le fais, devant un amphithéâtre dépeuplé, j'avais le droit à 10, comme le Décameron d'ailleurs, 10 auditrices et auditeurs. Et j'ai fait ça. Et à ce moment-là, effectivement, vivre une épidémie aide quand même. Guillaume Lachenal a raison de dire que c'est un sale, parce que d'une certaine manière, ça se répète, et puis on veut toujours trouver des précédents.
C'est toujours la même histoire.
Et puis c'est toujours la même histoire. Et comme c'est toujours la même histoire, on comprend un peu mieux ce qui se passe. Et puis il y a aussi quelque chose de spécifique, c'est que on va parler durant toute l'émission de science, la science ça se décide et ça se finance. Et si on finance des recherches sur la peste aujourd'hui, c'est parce que c'est un agent pathogène le plus létal pour l'homme et un enjeu potentiel de bioterrorisme. Donc en fait, les hantises du présent, elles s'invitent dans nos objets du passé. Si je peux raconter tout ça, c'est parce que il y a, à l'Institut Pasteur et ailleurs, des savants qui travaillent sur ce sujet-là. Et s'ils travaillent sur ce sujet, c'est pas pour l'amour du Moyen-Âge. C'est parce qu'ils essayent effectivement de nous sauver de ce que l'OMS appelle une pandémie potentiellement réémergente.
Alors, cette enquête commence donc au moment du confinement. Ça a des conséquences pratiques qui font d'ailleurs écho à une émission récente avec Caroline Muller, lors de laquelle on a parlé de la façon dont désormais on peut faire de l'histoire à distance.
Oui,
on parle d'OSINT s'agissant d'enquête grâce aux outils numériques, mais vous-même décrivez la situation dans laquelle vous vous trouvez face à une pièce issue des archives, à propos de laquelle vous avez écrit, sur laquelle vous vous êtes appuyé pour cette enquête scientifiquement, mais pour autant vous ne l'avez jamais vu et vous ne l'avez jamais touché. Mais au fond, c'est pas grave, ça n'empêche pas de faire de l'histoire. Ça, c'est des coulisses très très importantes et qui sont rarement dévoilées comme ça. En tout cas,
parce qu'en réalité, j'avais un programme de recherche qui s'est voilà, nécessairement adapté aux circonstances. Les circonstances étaient celles que, voilà, nous avons toutes et tous subies. C'est que nous étions séparés, ensemble, voilà. Et en tout cas, il s'agissait pas d'aller voir les archives que je voulais aller voir. En revanche, je suis dans un lieu privilégié, ou enfin en tout cas où l'interdisciplinarité est notre vocation, le Collège de France. J'avais par ailleurs effectivement la possibilité de dialoguer avec des gens qui faisaient de la génomique des populations comme Luis Quintana Murci, ou de la microbiologie comme Philippe Sansonetti, et puis la possibilité de lire en fait ce que j'aurais peut-être pas fait à ce niveau-là, à cette intensité obsessionnelle, hein. La littérature scientifique, j'allais dire presque faute de mieux, mais mon lieu n'était pas là, en fait. Mais ça m'a passionné, évidemment. Évidemment que ça m'a passionné, parce que là, on pose quand même des problèmes qui sont des problèmes théoriques importants, qui, à mon avis, sont des problèmes pour nous aujourd'hui. C'est le rapport entre les sciences sociales et les sciences du vivant. Est-ce qu'on continue en fait à les opposer, je dirais, à l'ancienne, en disant, oh là là, on veut pas biologiser le social, ou est-ce que on prend la peine de comprendre la révolution scientifique en cours, qui est vraiment là, voilà, la génétique c'est prodigieux. Je dis pas qu'il faut se jeter dans ses bras, je dis qu'il faut comprendre ce que ça fait pour ensuite réagencer, réarticuler, on va dire, pour théoriquement, le naturalisme et le constructivisme, hein, c'est-à-dire en fait de quoi on va parler quand on parle d'une société dans son environnement naturel.
Toutes choses que le courant STS, comme on dit, hein, des Science and Technology Studies, ont développé. D'ailleurs, on croise Bruno Latour aussi dans votre livre à propos de momies égyptiennes.
Oui, parce que évidemment, quand je dis que c'est, enfin, je dis que nous disons que ces malheureux du XIVe siècle sont atteints de Yersinia pestis, nous faisons comme effectivement Bruno Latour s'amusait de nous rappeler que Ramsès II est mort de la tuberculose, c'est-à-dire en fait d'un bacille qui est découvert par Koch en 1882. C'est pas un anachronisme aussi flagrant que il est mort d'une rafale de Kalachnikov, mais ça pose quand même problème. Il faudrait dire il est mort de cette maladie que nous appelons depuis tuberculose. Et en fait, dans un article que je trouve extraordinaire, parce que, comme toujours, il est plus compliqué qu'on le pense, c'est-à-dire que son aspect un peu rigolard le rend vulnérable à la critique sérieuse, mais en fait, c'est pas de ça dont il parle. Il raconte cette histoire, on est en 1976, la momie de Ramsès II est accueillie comme un chef d'État. C'est le temps de la grande exposition
au Grand Palais.
Et puis, il y a une photo extraordinaire où la momie est entourée et sur une table de comme du Lautréamont, hein, sur une table de chirurgie. Et dans Paris Match, c'est le Paris Match de 1976, il y a cette légende extraordinairement épistémologique pour vous, Sylvain Bourmeau, Ramsès II tombé malade 3000 ans après sa mort. Ça veut dire, bah oui, évidemment, avant d'être entouré de médecins, on n'est pas vraiment malade. Voilà.
Il est mort de cause inconnue et de tuberculose.
Et il faut penser les deux en même temps. C'est-à-dire que pour lui, il est mort, il a toussé, il est mort. Pour nous, il est mort de tuberculose. Mais le fait de dire aujourd'hui qu'il est mort de tuberculose n'annule pas le fait que pour lui, il est... Voilà. Et en fait, ça m'a permis de régler toujours mon petit problème de narration. Je veux dire, je vais écrire cette histoire depuis un point de vue de savoir, quand même important aujourd'hui de défendre la science, mais aussi depuis un point de vue d'ignorance, c'est-à-dire depuis essayer de comprendre ce que ça fait que d'être touché par un mal qui répand la terreur, pour le dire avec La Fontaine, et dont on ne sait rien.
Le parapluie et la machine à coudre, donc sur la table de dissection, en l'occurrence Patrick Boucheron. Justement, cette narration, ces points de vue, la composition du livre qui est très très impressionnante, comme une tapisserie, comme je sais pas très bien, comme Shortcuts, le livre de Raymond Carver adapté par Robert Altman, ça renvoie à des formes comme ça. Comment vous êtes parvenu à trouver la manière d'agencer tout ce que vous aviez récolté?
Douloureusement, J'attendais que vous me l'expliquiez. Il y avait de toute façon la nécessité de faire un événement, de faire l'histoire d'un événement de longue durée, donc qui ne pouvait commencer qu'avec Alexandre Yersin, médecin des colonies, qui part en Indochine pour arrêter là une nouvelle peste d'Orient, puisque objectivement, comme souvent le Moyen-Âge, qui n'est rien d'autre que l'ombre projetée du XIXe siècle, si nous parlons de la deuxième pandémie, c'est parce qu'il y en a eu une troisième. Et donc, c'est ce que Nuket Varlik, une historienne turque qui a totalement renouvelé notre connaissance de la peste noire, appelle l'orientalisme épidémiologique. C'est-à-dire qu'on va chercher au loin ce que nous étions avant. Donc les Chinois étaient, pour les pasteuriens, au fond, les détenteurs du secret du mal en Occident. Voilà. Donc, ça se raconte à partir de ce moment-là, et puis on va jusqu'à... c'est une sorte de flashback jusqu'à la peste justinienne, puis ensuite on revient, là oui, c'est vrai, il y a des mouvements de caméra un peu heurtés, parce que, justement, la question, c'est de reculer toujours vers cette idée que la peste a toujours déjà commencé quelque part. Et ça... Si on se souvient, je parlais de Camus, que la peste est toujours la métaphore d'autre chose, que je vais parler dans le livre, évidemment, de guerre, bien sûr, de tyrannie, d'inégalité, de tout ce que ça produit, de sexualité, de tout ce que ça produit dans la société. L'idée que, au fond, cet événement qu'on craint, dont on attend le surgissement, eh bien, à force de l'attendre, on ne se rend pas compte qu'il est déjà venu, ça, je dirais presque du point de vue politique, c'est intéressant.
Vous parliez de durée, de temporalité qui peuvent être extraordinairement longues ou parfois plus compressées, la durée de la vie d'un individu. Il se trouve qu'on a le même âge, Patrick Boucheron, vous et moi. Vous terminez le livre par l'année 1983. Oui. C'est la première fois, personnellement, que j'allais au Festival d'Avignon.
Ah, vous l'avez vu, vous. Moi, je l'avais pas vu.
Ouais. Je l'ai raté, ce spectacle. D'accord. Mais j'avais vu le Saperlot de Gilda Bourdet dans la même édition. Mais j'avais entendu beaucoup parler de ce spectacle de Jean-Pierre Vincent, Les Derniers Jours de la Peste, dont vous parlez. Oui. On est à l'été 1983. Encore une fois, on est de la même génération. Et donc, on a, dans les mois qui ont suivi cet événement, découvert, à travers une sorte de chronique de l'actualité, la manière dont une nouvelle épidémie déferlait et touchait plus particulièrement les gens qui avaient notre âge.
C'est ça.
C'était quelques mois avant Avignon, la découverte du virus HIV. Mais à Avignon, devant ce spectacle de la peste, personne ne savait. En fait, on était un peu dans la situation de ces gens du Moyen-Âge qui mouraient sans savoir de quoi.
Exactement. Et c'est pourquoi la dernière partie du livre, qui s'appelle « Le temps des faits », se termine logiquement par le théâtre de la peste, au sens d'Artaud, bien sûr, mais avec cette scène que je trouve sidérante. C'est le début de la querelle d'Avignon. En fait, les gens avaient détesté ce spectacle. C'était le début aussi de l'écriture de Plateau. Chartreux, Bernard Chartreux, donc écrit « Dernière nouvelle de la peste » en confondant tout. Il y a du Thucydide, il y a du Boccace, il y a du Defoe. Et puis celui qui lui donnait d'ailleurs les archives, c'était un jeune historien de l'art qui s'appelle Georges Didier Huberman, qui plus tard a publié sous le titre « Mémorandum de la peste » ce dossier préparatoire. Et en fait, les gens ne comprennent pas à Avignon, à l'été 83, pourquoi on leur parle de tout ça. Et pourtant, parce que évidemment, ça c'est la puissance de l'art qui voit venir le temps, j'ai retrouvé, dans le journal de Catherine Clément, elle écrit quelque part « Il y a de la prémonition dans l'air ». Donc cette capacité, au fond, de l'art à mettre... Alors, c'est exactement comme l'épithétaire que vous avez cité au début de cette émission. Ça gronde, ça vibre, ça gueule. On ne sait pas trop ce qui se passe, mais simplement, il y a quelque chose qui ne trouve pas encore son mot. Hein, vous savez, c'est le récit épidémique, c'est fondamental, c'est que pendant très longtemps, on ne dit pas le mot. Hein, c'est ça dans la peste de Camus, c'est ça, pendant très longtemps, on retient le mot. Hein, tant qu'on ne dit pas la peste, pour que ça ne soit pas la peste. Bon. Et donc ça, c'est un moment que je trouve extraordinaire et qui évidemment va réenclencher plein de choses. Parce que, figurez-vous par exemple, que ce qui a empoisonné littéralement l'histoire du sida, c'est-à-dire la manière qu'on a eu d'en faire l'histoire. C'est cette notion mortifère et totalement inefficace épidémiologiquement de patient zéro. On cherche le patient zéro et ça va tomber sur un pauvre steward canadien qui s'appelait Gaétan Dugas, l'homme par qui la peste nous est arrivée. Je sais qu'il y a un titre d'un livre aujourd'hui sur, mais c'est une autre histoire. Et ben figurez-vous que dans la peste de Marseille en 1720, on cherche déjà le patient zéro. Et on va décider que c'est quelqu'un qui s'appelle Marguerite d'Optane. Bon, voilà. Et donc, ça veut dire que la puissance, en fait, du récit. Alors, souvent, on dit archaïsme. Bon, oui, c'est un archaïsme au sens où un historien pourrait parler d'un archaïsme, c'est-à-dire quelque chose d'ancien, mais de vivant, de vibrant, d'actif. Concrètement, la peste, c'est une maladie de la modernité des mondes médiévaux interconnectés. Voilà. D'ailleurs, elle s'arrête, elle s'étiole aux franges de ces mondes modernes. Donc, c'est une maladie de la modernité, exactement comme toutes nos épidémies. Voilà, c'est ce que donne à voir l'épidémie, le cinéma, mais qui va aller chercher au plus profond, en fait, des sociétés. Je ne veux pas dire des archaïsmes, mais enfin, en tout cas, des structures anthropologiques fondamentales.
Il y a une expression qui revient comme un leitmotiv dans votre livre, Patrick Boucheron. Évidemment que c'est la peste. Ça veut dire qu'il faut savoir la voir, la reconnaître, la oui. peste. C'est pour ça que ce n'est pas forcément tout à fait sans rapport avec le livre que vous évoquiez. Oui. On est aussi dans un moment, on traverse un moment dans lequel on doit pouvoir faire des diagnostics, en quelque sorte.
Oui, oui, ça c'est le petit coup de théâtre, parce que ça, c'est une, comme ça, une petite ritournelle qui revient, évidemment que c'est la peste, et puis à la toute fin, on apprend que c'est une des répliques des dernières nouvelles de la peste du spectacle dont vous venez de parler. Et cette capacité à nommer, elle est absolument fondamentale. Voilà. Quand je dis c'est ancien, c'est plus qu'ancien. En fait, c'est le roman de fondation de l'Occident, c'est l'Iliade. Dans les premiers vers de l'Iliade, les Grecs entrent en guerre, et ils entrent en guerre malades de la peste. Cette peste vient d'Orient, et l'entrée en guerre est aussi une entrée en poésie. Et tout est là. Et donc, par conséquent, la question des mots, d'ailleurs, souvent, on a appelé calamité, ces fléaux qui affectent d'abord la capacité de les nommer. Et donc, bien sûr, que la question de la dénomination va être absolument fondamentale dans cette histoire. Et c'est une histoire qui va changer d'ailleurs toutes les dénominations. C'est-à-dire que quand on se pose la question de savoir qu'est-ce que ça change, apparemment rien. Mais j'utilise par exemple un texte de Ibn Khaldoun qui dit « Le monde cultivé changea d'aspect ». Ça veut dire que c'est un peu comme nous. Après le Covid, on serait bien en peine, on ne vit pas dans un monde d'après. Mais on a quand même le vague sentiment que le monde continue, mais est aussi méconnaissable. Voilà. Et par rapport aux inégalités, par rapport au pouvoir, par rapport à cette question brûlante que j'ai essayé de retarder, vous me parliez de la composition du livre, je voulais, au fond, ce que je cherchais, c'est à un moment donné que la question qui est celle qui fait le plus gros chapitre, qui est le plus difficile, qui est celle de la mise à mort des Juifs, massive hein, quand même, au temps de la, où on trouve plein de choses, le complot, etc., complot juif, l'empoisonnement des puits, arrive à un moment où ils nous surprennent. Parce que ce que je voulais surtout pas, c'est qu'on règle le problème en disant « ouais, c'est des boucs émissaires, c'est normal ». Non, non, c'est pas normal. Je veux dire, l'histoire consiste, je trouve, à déplacer notre étonnement. À garder intacte notre capacité de stupéfaction et de scandale. J'ai voulu le plus longtemps possible, ça c'est une question de composition, maintenir comme incompréhensible le fait qu'il y a la peste, on tue des juifs. Je voulais surtout pas qu'il y ait une conjonction de coordination. Donc, non, il n'y a pas de donc. Et la notion de bouc émissaire n'est pas dans le livre. Ça, c'est un mot que je ne dis pas. Parce que il va trop vite, ce mot. comprenez.
Vous laissez les références à René Girard, à d'autres.
Voilà, non, voilà. Une fois qu'on l'a dit, on pense être quitte avec la violence, avec la mort de masse. Mais non, on le dit pas et on voit comment ça se passe. Alors, on décrit. Et ce qu'on décrit comme historien, c'est que, par exemple, s'il y a eu 900 juifs brûlés à Strasbourg le 14 février 1349, à la Saint-Valentin 1349, c'est parce que, c'est pas du tout une violence débridée du peuple, c'est parce que des élites se déchiraient, les élites urbaines, et que un groupe de patriciens accusait l'autre d'être les amis des juifs, ce qui est toujours une manière facile de disqualifier à ce moment-là. Donc il y a eu un jeu politique.
On continue à parler de la peste noire, ce livre Patrick Bouchon avec Boris Tchermatz qui nous rejoint. Au début des années 90, Bruce Springsteen, à propos du sida, justement, écrivait cette chanson BO d'un film Streets of Philadelphia. Ces derniers jours, il a enregistré, mixé et mis en ligne hier Streets of Minneapolis.
Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue, a city of flame fought fire and ice, neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets, in the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night. And there were bloody footprints where mercy should have stood, and two dead left to die on snow-filled streets, Alex Pretty and Renee Good. Oh, Minneapolis, I hear your singing through the bloody mist. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Thugs beat upon his face and his chest. Then we heard the gunshots, and Alex Pretty lay in the snow dead. Their claim was self-defense, sir. Just don't believe your eyes. It's our blood and and these whistles and phones against Miller and Noam's dirty lies. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice crying through the bloody mist. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Hold the law, but they trample on our rights. If your skin is black or brown, my friend, you can be questioned or deported on sight. In our chance of ice out now, our city's heart and soul persists. Through broken glass and bloody tears on the streets of Minneapolis. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. Here in our home they killed and roamed in the winter of 20.
the streets of Minneapolis. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis.
France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourmont.
Peste noire, c'est le titre du livre de Patrick Boucheron dont nous parlons aujourd'hui. Il paraît aux éditions du Seuil. On en parle aussi avec vous, Boris Charmatz. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec nous depuis Bruxelles. Voilà, on a pris l'habitude aussi, après le confinement, on a gardé cette bonne habitude de pouvoir faire de la radio à distance qui a élargi considérablement nos possibles. Vous vous connaissez avec Patrick Boucheron, vous avez même travaillé ensemble, puisqu'avec La Ruée, vous avez mis en chorégraphie, mis en danse, je sais pas comment on peut dire, ce livre qui est l'histoire mondiale de la France, que Patrick Boucheron a dirigé avec de très nombreux historienne et historien, vous êtes aussi, vous aussi avez réfléchi à cette situation d'épidémie. Peut-être un mot d'abord pour commencer, Boris Charmatz, sur la mise en danse de l'histoire mondiale de la France.
Oui, bon, c'est vrai que ça a été une aventure extraordinaire qui nous a rapprochés, évidemment. Je cherchais en fait des dates, parce que je faisais à ce moment-là un spectacle qui était uniquement de nombres. Je voulais que les danseurs, dont moi, on évoque des nombres de zéro à l'infini, des nombres mathématiques, et puis je cherchais des dates historiques, et puis j'ai entendu parler de ce livre, d'une histoire de France faite par de nombreux chapitres qui représenteraient une date. Et en fait, en lisant ce livre, je me suis dit non, mais en fait, ça marche pas du tout pour mon spectacle. Il faut faire complètement autre chose. C'est un livre extrêmement collectif. Il faut faire œuvre collective. Donc, j'ai invité beaucoup d'artistes, des étudiants aussi de théâtre et des artistes à s'emparer chacun d'un chapitre, parfois de plusieurs chapitres, et de faire une sorte d'exposition vivante à partir de ce livre où on rentrerait à l'AMC 93, au Théâtre de Bretagne, au TNB. Et on rentrerait dans les lumières d'Yves Godin, avec pas mal de fumée et des gyrophares, une forme d'urgence. On rentrerait dans un livre qui est le livre qu'on cherche un peu tous, qui est une histoire de France. Quoi. Alors, c'est cette histoire de France qui est sujet à des pressions politiques, des débats infinis. Et j'avais l'impression que ce livre nous tendait la main pour agir, je sais pas, mais pour répondre, pour s'emparer comme ça, nous aussi, nous danseurs, nous acteurs, et puis du coup nous public, du récit national qui est soumis à la tentation aujourd'hui.
Ouais. Patrick Boucheron, c'est un livre vivant. Il y a des nouvelles éditions. Faudrait imaginer des nouvelles éditions.
Oui, on a continué. Oui, on a la nouvelle édition 2025 rajoute presque un quart de date. Boris, ça a été un cadeau magnifique pour nous de voir ce que tu as fait, c'est-à-dire qu'un collectif d'historiennes et d'historiens puisse prendre vie, traverser littéralement un collectif de danseuses, de danseurs, de comédiens. C'est la plus belle des réponses aux passions tristes. C'est que, au fond, il y a quelque chose d'irréfutable dans la joie comme puissance d'agir.
C'était aussi une manière de nous mettre ensemble, nous, tous ces artistes qui ont travaillé sur La Ruée, se dire bon, on est traversé par la question coloniale, on est traversé par des questions de genre, par des traumas de l'histoire. Qu'on soit d'origine juive, qu'on soit d'origine arabe, qu'on soit d'origine... voilà. Et au fond, ce livre, tout d'un coup, qui naît aussi après les attentats de 2015, qui questionne l'espace public, qui questionne le récit national, il s'adressait à nous, les artistes. En fait, c'était aussi une manière de nous mettre ensemble. Et c'est vrai que c'est pour ça que je crois que ça a été une aventure un peu inoubliable, en tout cas pour moi.
Alors Patrick Boucheron nous expliquait tout à l'heure que son enquête sur la peste noire avait débuté dans la situation particulière du confinement. Il se trouve, vous, Boris Charmatz, que pour l'édition 2020-2021 du Festival d'automne, normalement c'est 2020 parce que le Festival d'automne est en automne, il n'est pas à cheval sur deux années, sauf que cette année-là, il y a eu l'épidémie de Covid, un premier, puis un deuxième confinement, tout ça a bousculé considérablement les choses. Cette année-là, vous deviez faire ce qu'on appelle un portrait dans ce festival, c'est-à-dire avoir l'occasion de montrer, de reprendre différents spectacles importants de votre parcours, et puis d'en créer de nouveaux. Et en fait, vous avez dû créer dans cette situation très particulière, d'abord d'un spectacle sans public, ou à peine, je dois dire que j'ai eu l'extraordinaire chance d'assister au Grand Palais dont on parlait tout à l'heure, à La Ronde, cette adaptation de Schnitzler, qui est aussi une histoire de circulation et de contact des corps et de ce qui va d'un corps à l'autre, Boris Charmatz.
Oui, c'est vrai, quand on repense à cette période, j'ai l'impression d'avoir le cerveau comme dans le brouillard. Quand est-ce que c'était 2020? Non, c'était 2021. C'est quand le premier confinement? Enfin, donc, je vais avoir besoin d'historiens présents et futurs pour me remettre des dates, pour remettre tout ça bien.
Là, la création de La Ronde, c'était le deuxième, dans mon souvenir. Il neigeait sur Paris.
Oui, voilà. Et c'est vrai que, en fait, on avait prévu de faire quelque chose au Grand Palais qui était totalement impossible. Parce que je me souviens, j'étais enfermé chez moi à Bruxelles et je devais préparer pour le Grand Palais un énorme spectacle avec 400 danseurs qui seraient les uns sur les autres, cul par-dessus tête, qui seraient ensemble. Et évidemment, on nageait dans le Covid. Donc, c'était impossible d'imaginer la rencontre, encore moins le toucher, encore moins la masse des corps agglomérés ensemble. Donc, c'était impossible. Et j'ai l'impression d'avoir fait 5 projets différents en se disant, on va adapter, on va rechanger, on va annuler. Non, on va pas annuler, on va inventer quelque chose. Et finalement, on a essayé de trouver une forme qui est La Ronde, qui s'inspire de Schnitzler, qui est à la fois, ça nous paraissait un peu plus possible parce qu'on n'était pas 400, on était une, si je dis pas de bêtises, une vingtaine d'artistes, mais c'était des séries de duos, donc ils disaient bon, c'est limité, le contact est limité, mais c'était aussi quelque chose de vraiment impossible au temps de la pandémie. Bon, déjà d'avoir du public, ça s'est avéré impossible, mais aussi c'était quand même une forme de chaîne de contamination, puisque il y a un duo, c'est un personnage A, un personnage B, et puis ensuite c'est B C, C D, D E, et puis ça revient à A. Donc finalement, c'est une forme de société qui est liée, une chaîne humaine par les duos. Donc, qui était aussi quelque chose d'impossible au temps de Covid, mais qu'on a quand même réalisé, filmé, et qui a du coup pu avoir un écho, même s'il flirtait avec l'impossible à ce moment-là.
Avec de très grands danseurs et chorégraphes, Anne-Thérèse Kersmacher, notamment Patrick Boucheron.
Oui, au Moyen-Âge, la contagion, ce qu'on appelait la contagion, le Moyen-Âge, il faut imaginer que c'est un monde sans microbes, et donc ce qui nous paraît évident dans ce que c'est qu'une maladie contagieuse ne l'était pas pour eux. Ce qui est contagieux au Moyen-Âge, c'est les émotions. C'est-à-dire, vous riez, je ris, vous baillez, je baille, vous êtes triste, je compatis, au sens propre. Et ce n'est que par métaphore qu'on va parler de contagion pour la maladie, parce que la contagion, ce qui se propage, c'est d'abord les émotions. Et on en avait parlé avec Boris Charmatz, parce qu'on se voyait à ce moment-là, c'était Hortense Archambault qui nous réunissait à la MC93, tu en as parlé, mais aussi Arthur Nosiciel, qui, lui, au TNB, il avait fait aussi la
Ronde. Théâtre National de Bretagne,
Théâtre
de Rennes.
National de Bretagne, de Rennes. Il avait aussi monté La Ronde, qui est effectivement une chorégraphie de désir, où se transmet à la fois l'amour et l'antisémitisme, d'ailleurs. Et c'est intéressant parce que je pensais à nous, Boris. Je te demande pas de faire une adaptation chorégraphique de La Peste Noire, mais je te suggère un truc intéressant. C'est que quand on parle de la peste, ou plus exactement quand on ferme les yeux et qu'on pense à la peste, on voit une danse macabre. Et la question aujourd'hui, qui est une question non résolue par les historiens, alors peut-être qu'un chorégraphe pourrait la résoudre, c'est qu'on ne sait pas si ces danses étaient dansées ou pas. On ne sait pas s'il y a une chorégraphie de la danse macabre.
Alors on va demander au musée de la danse, Boris Charmatz.
Alors je n'ai pas la réponse, parce que il y a notamment Anne Colo, une chorégraphe qui a travaillé sur les danses macabres. Il y a des gens qui travaillent sur les danses macabres, mais c'est quelque chose pour moi que je n'arrive pas à m'en emparer totalement, mais évidemment ça fait rêver.
Il y a de la ronde, quand même, c'est une ronde.
Voilà, c'est une ronde. Et quand j'ai entendu
à distance, hein, les cours du Collège de France, j'ai eu tout de suite envie de me dire mais c'est, il faut faire quelque chose avec ce cours. J'avais travaillé il y a très longtemps sur le cours du Collège de France de Foucault, sur le neutre et sur comment vivre ensemble.
Ça c'est Barthes.
De Barthes, excusez-moi. Et ça me donnait envie en vous entendant. Je me disais mais tiens qu'est-ce que je vais faire la peste noire, c'est un tel sujet et c'est un sujet dansant, parce que dans ce macabre, parce que cette question des pandémies, c'est quelque chose qui nous agite jusqu'à aujourd'hui, et puis qui m'a marqué, hein, le sida, le Covid. Donc c'est une vraie question. Je n'ai pas de réponse, mais bizarrement, de vous entendre au Collège de France dans la distance parler de la peste, moi ça m'a aussi donné envie de danser, d'inventer, de réfléchir. Alors je sais pas si c'est de la danse macabre, mais à faire quelque chose avec ça. J'ai pas la réponse et parfois je suis lent, donc je ne sais pas.
Le portrait dont je parlais tout à l'heure au Festival d'automne, vous aviez d'ailleurs repris un spectacle créé pendant ces années sida, et puis ça se terminait avec une création qui, elle, était marquée par ce Covid, Happening Tempête, dont je parlais tout à l'heure, au Grand Palais éphémère, qui était ce lieu du côté des Invalides, où vous aviez travaillé avec des danseurs amateurs autour de la question de la distance, de la proxémie notamment.
Et oui, on a fait l'ouverture comme ça, hein, du Grand Palais éphémère, avec un projet où on était très nombreux, mais on était tous séparés, on avait des sortes de croix, donc tous les danseurs, on courait quand même dans l'espace, mais enfin on avait chacun sa place, on ne se touchait pas, on ne s'embrassait pas, voilà, il y avait pas de contact, mais on pouvait quand même faire quelque chose. Et c'est vrai que la pandémie, elle nous a quand même du Covid. Elle a pas décimé 60% de la population européenne, heureusement, ou mondiale. Mais elle nous a, bon, il y a eu des morts, mais elle nous a aussi beaucoup donné à réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait après? Cet été, j'ai fait un projet qui s'appelle Cercle au Grand Palais. On était 200 à tourner en cercle. Et enfin, je dirais, par rapport à la ronde, enfin, il y avait vraiment du monde. Il y avait plus de 2000 personnes qui pouvaient venir voir. On était 200 à danser. Et c'est il n'est pas né du Covid, ce projet, mais quand même, c'était comme une résolution de se dire, bon, on peut passer à autre chose. Et une partie des rêves qui nous agitent aujourd'hui, bah, ils sont nés dans ces moments où on ne pouvait plus se toucher, les amants ne pouvaient plus se retrouver, on ne pouvait plus voyager, on ne pouvait plus, bien sûr, jouer dans les théâtres. Donc il y a quelque chose d'extrêmement négatif, hein, dans, notamment pour les artistes, les annulations, la perte du travail, la perte de sens. Mais il y a eu aussi des rêves qui sont nés à ce moment-là de qu'est-ce qu'on va pouvoir faire quand les théâtres vont ouvrir. Et du coup, il y a des créations d'aujourd'hui qui sont encore, pour moi, des échos, ou en tout cas nés au temps du Covid. Et je crois qu'il y a, heureusement, malheureusement, il y a aussi des créations qui se font aujourd'hui, qui sont nées au temps où le sida faisait vraiment un nombre de morts incroyables en Europe.
Pas forcément un monde d'après, donc, mais un monde de depuis, pour reprendre l'expression de Patrick Boucheron, qui consiste à écrire depuis la peste. Peste noire, c'est le titre du livre de Patrick Boucheron qui paraît au Seuil. On trouve la référence sur la page de l'émission où vous pouvez écouter l'émission, vous abonner au podcast.
France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourmont.
Rubrique actualité cette semaine à propos du congrès qui se tiendra la semaine prochaine à Paris, du Collège des sociétés savantes. Dans ce moment où la science est attaquée de toutes parts, à différents endroits du globe, à Paris très certainement, vous avez peut-être pris connaissance de la lettre d'une professeure d'université qui fait beaucoup d'écho ces jours-ci, mais évidemment aux États-Unis où la situation préoccupe. Ce Collège des sociétés savantes, qui est une sorte de fédération des sociétés savantes, est organisée à l'École normale supérieure sous le titre « Dans le maelstrom, science, société et choix politique ». Et c'est notamment la politiste Johanna Siméon-Germanos qui accueille à l'ENS cette manifestation et qui l'ouvrira. Mais on vous a demandé, Mathias Girel, vous qui êtes philosophe et enseignant dans cette École normale supérieure, de faire la conférence introductive.
Oui, alors c'est une lourde tâche qui m'échoit, mais le titre de la rencontre dans le Maelstrom recoupait assez largement les thématiques qui m'ont occupé ces derniers mois, ces dernières années, avec une attention assez grande au phénomène de confusion, puisque c'est une forme de pathos de l'époque. Tout le monde se plaint de confusion, de crise de l'attention, de post-vérité, de prolifération d'indiscernables avec les deepfakes. Alors, en tout cas, je ne sais pas si on est plus dans la confusion qu'avant. Ça, il faudrait des outils historiques très précis pour nous permettre de le décider.
Mais en tous les cas, elle est là.
C'est un pathos de l'époque. C'est une inquiétude et c'est au centre des débats publics. Raison de plus pour peut-être y regarder de plus près.
Alors, vous avez choisi de le faire en particulier comme traducteur d'un document dont il est important qu'on prenne connaissance ici en France.
Oui, alors il sera publié, la traduction sera publiée dans le mois qui vient. C'est un guide d'anti-autocratie à l'usage des chercheurs et universitaires, fait par un collectif de psychologues, de philosophes, le principal étant à Bristol, et qui réfléchit à chaud évidemment sur ce qui se passe aux États-Unis avec la volée de décrets de Donald Trump dans les toutes premières semaines de son second mandat, mais qui a aussi une portée plus large. Et le lien, disons, avec cette thématique générale de comment se repérer au milieu de la confusion, où on a aussi des notions comme la désinformation, c'est aussi de voir ce qui permet de sortir de l'indécision. Et très souvent, il faut se tourner vers des recherches existantes, que ce soit du climat, que ce soit de l'histoire, bien entendu, l'étude des épidémies. Et ce levier qui permet de sortir légèrement de la désinformation suppose des libertés académiques, des libertés universitaires, une liberté de produire du savoir et de l'exposer publiquement. Et donc le guide en question, qui prend pour contexte ce qu'ils appellent le recul ou le délitement des démocraties, democratic backsliding, a essayé de repérer, disons, les mauvaises stratégies, ce qui ne marche pas quand on est universitaire et qu'on voit le temps se couvrir, et puis aussi essayer de fournir quelques pistes. Et donc, c'est ce qui m'intéressait. J'en présenterai quelques éléments, mais évidemment, mon intervention aura un propos plus large que ce guide.
Alors, qu'est-ce que vous avez prévu de partager avec ces collègues inquiets ?
Mais en tout cas, disons que les collègues qui ont, Stéphane Lewandowski et ses collègues qui ont donc formulé ce guide, ils se donnent un critère assez large de la montée de l'autocratie, c'est-à-dire c'est le moment où l'opposition comporte un coup. Un coût symbolique, un coût financier, un coût professionnel, et on le voit aussi, un coût vital, si on pense aux événements du Minnesota de ces derniers jours. Et donc, c'est une question. Aux États-Unis, il est clair que vous pouvez perdre votre poste professeur d'université, vous pouvez être obligé de revoir votre programme, votre syllabus. On a vu dans une université du Texas un professeur obligé de retirer Platon, le banquet de Platon, de son programme de cours. Il y a ce type de coup, et on peut penser donc que ça ne concerne que les États-Unis, peut-être avec un climat un peu extrême, mais c'est pas si sûr que ça. Et donc le guide a une portée beaucoup plus large, et il repère, disons, un certain nombre de mauvaises stratégies et sur lesquelles on a un petit peu de recul. Aux États-Unis, par exemple, espérer que ça passe et raser les murs, c'est en général une mauvaise stratégie parce que ça laisse l'espace public complètement libre pour toutes sortes de contre-vérités, de propos extrêmes, de désinformation. L'autocensure, l'obéissance anticipée, la réticence à être politique et à s'engager. Il y a un moment où rester apolitique est une forme d'engagement et de consentement. Et donc, je trouve intéressant le fait de baliser ces choses-là. De la même manière, il recense un certain nombre de stratégies utilisées par les autocrates, pour essayer de mettre au pas la recherche universitaire. Alors, il y en a plusieurs. Il y a la procédure comme punition. Ça remonte à McCarthy et même avant. C'est-à-dire, au fond, il n'y aura même pas besoin que vous soyez condamné à la fin. Le simple fait que vous soyez l'objet d'une enquête, qui peut être une enquête parlementaire, par exemple, on peut monter une commission à l'Assemblée, suffit déjà, quand le temps se couvre, à vous discréditer. Il y a la stratégie dite des lions du Serengeti, en référence à la Tanzanie, où les lions vont s'attaquer à des zèbres isolés. Et donc, il y a souvent, au départ, un ciblage de personnes qui paraissent isolées de leur communauté, alors que la recherche, c'est une activité qui suppose une collectivité, une communauté. On en a eu un très bel exemple précédemment, plutôt dans cette émission. Et puis, il y a ce qu'ils appellent le blanchiment d'informations. Alors, je vous laisserai chacun voir si on a des exemples en France, mais vous pouvez avoir une polémique qui monte dans une presse d'extrême droite, par exemple, qui suscite l'inquiétude de ministres ou de commissions parlementaires et qui peut aboutir à l'annulation ou à la reprogrammation de colloques ou d'événements universitaires. On a des exemples aux États-Unis, on en a peut-être en France aussi.
Un mot, Patrick Boucheron ?
Non, c'est très important, les libertés académiques, qu'on ne doit pas confondre avec les libertés d'expression. C'est davantage qu'un principe, ça fait partie des droits de l'homme. Et ça s'applique évidemment aux individus, mais aussi aux institutions qui doivent les garantir.
Alors sur les techniques qui marchent pas ou les conseils, c'est vrai que les Américains ont peut-être quelques longueurs d'avance. Je me souviens que lors de son passage à Paris, en France, il y a quelques mois, l'historien professeur à Stanford, Fred Turner, qui travaille sur le numérique, le multimédia depuis fort longtemps et l'Internet, partageait ses conseils en disant qu'il était très important, au vu de ce qu'il constate aux États-Unis, que l'on cesse dans ce type de situation de considérer que d'un côté on est un professionnel et que de l'autre on est un citoyen et qu'il fallait se mobiliser en utilisant tous les moyens professionnels dont on dispose.
Oui, bien sûr, ça doit être fondé évidemment sur sa science, sur les domaines que l'on maîtrise. Mais de la même manière, alors je ne parle pas en son nom, mais il se trouve que je fais partie du comité d'éthique du CNRS. Et nous avons publié il y a 2 ans un rapport sur l'engagement des chercheurs, en disant que ça faisait tout à fait partie des possibilités pour un chercheur ou une chercheuse que de s'engager, qu'il ne fallait pas confondre neutralité et objectivité. Nous devons être objectif, nous devons nous appuyer sur tous les savoirs que nous avons dont nous avons l'usage et la maîtrise, mais en tout cas on n'a pas à plonger dans un mutisme ou à être apolitique comme le disent ces chercheurs.
L'autre conseil de Fred Turner, c'était ne pas considérer que les moyens dont on dispose et qui sont inscrits parfois dans la Constitution, le droit de pétition ou de manifestation, ce soit de vieilles choses qui ne servent à rien, au contraire, ne serait-ce que de se retrouver, ça nous renvoie à la danse, à la proximité, dans la rue, même si on n'est pas nombreux, c'est très important.
Oui, ça s'appuie sur le fait que toute activité scientifique suppose un collectif, est distribuée sur un collectif, et disons ces mouvements de solidarité, de mobilisation, de partage d'informations, ils sont d'autant plus importants que peut-être un autre trait important dans les moments de montée de l'autocratisme, c'est qu'il est peut-être plus facile de prévenir son arrivée que de le mettre à bas une fois qu'il s'est sévèrement installé et verrouillé. Et ce type de vigilance, d'entraide, peut jouer un rôle très important et peut-être sera moins coûteux que si nous sommes négligents, si nous restons apolitiques ou si nous laissons dépérir des libertés académiques.
Merci Mathias Girel. Donc ce guide contre l'autocratie pour à destination des scientifiques sera, la version française sera disponible bientôt. Congrès annuel du Collège des sociétés savantes académiques à l'ENS les 4 au 6 février prochain. On trouve la référence sur la page de l'émission. C'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau avec Aurélie Marseille et Sorge Leroy.